Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
8h, il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Christophe Barbier, journaliste, éditorialiste, écrivain, comédien, metteur en scène et j'en passe. Et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate.fr. Messieurs, soyez les bienvenus. On va commencer par le mot de la semaine prononcé par Emmanuel Macron au Conseil des ministres, le mot décivilisation. Évidemment, c'est un mot qui a été largement commenté. Il vous a surpris d'ailleurs de sortir du chapeau ce nouveau mot, le chef de l'État, Christophe?
Oui et non. Non, parce que Macron a l'habitude de nous jeter des mots comme ça, de poudre de perlimpinpin jusqu'à décivilisation. C'est un lexical, Macron, et c'est intéressant pour le débat. Oui, parce que j'ai trouvé tout de suite le mot trop grand. Décivilisation, c'est-à-dire qu'on retourne à l'âge barbare, ça m'a semblé trop grand pour des phénomènes certes très graves, des faits divers tragiques qui font sens dans la société, mais qui me semblaient plus une destruction du civisme que de la civilisation. Ouais. C'est grave, mais c'est pas pareil. Alors, donnons à Macron quand même le fait qu'il a parlé de processus de décivilisation. On n'est pas au bout, on n'est pas retourné à l'âge de pierre, mais on est sur une pente inquiétante, nous dit-il. Puis surtout, ce qui était passionnant, c'est la double réflexion qui a suivi, c'est-à-dire une gauche qui attaque tout de suite en disant Renaud Camus, c'est le titre d'un livre de ce penseur d'extrême droite, bien qu'il fût socialiste à ses débuts, et puis l'Élysée a dit non, Norbert Elias, c'est-à-dire un sociologue allemand beaucoup plus profond qui a réfléchi sur le processus de civilisation et la manière dont on peut reculer. Et ça nous donne un débat quand même très français, mais très intéressant, parce qu'il peut être structurant d'une proposition politique pour reciviliser ou, à mon sens, remettre du civisme, respect de l'élu, respect de l'autorité, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas le faire bêtement, brutalement, mais il faut le faire.
Jean-Marie.
Je n'ai rien à ajouter à ce que vous venez de dire.
Non, mais il savait ce qu'il faisait, le président de la République.
Oui, il sait ce qu'il fait, mais en même temps, on voyait bien un petit peu le piège parce que ça rappelle les polémiques sur l'ensauvagement, les sauvageons, etc., qui étaient une expression de l'extrême droite. Et qui était reprise lorsque la droite veut chasser sur les terres de l'extrême droite. Donc on s'est dit, il entre un petit peu dans le même processus puisqu'il cherche une alliance avec la droite. Bref, voilà. En voyant l'aspect purement, j'allais dire, tacticien de ce débat. Il y a un autre alors le mot est trop grand de toute façon pour la situation que nous vivons, même s'il est toujours bon de rappeler que les civilisations sont mortelles.
Oui.
Et la nôtre en particulier est mortelle. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas inutile, mais on reproche très souvent à ce président de ne pas savoir parler, comme Jacques Chirac par exemple ou d'autres pouvaient parler aux Français. Et lui, il utilise un langage très intellectuel, très sophistiqué et souvent confus. Et donc, il nous entraîne dans un débat qui est certes intéressant, qui va mobiliser un certain nombre d'esprits et c'est utile, mais qui va passer au-dessus de la tête des gens qui sont préoccupés par autre chose et qui attendent du président autre chose, qui attendent du président des réponses à la question du pouvoir d'achat, qui attendent du président la réponse à les urgences qui sont devant nous, c'est toujours les mêmes d'ailleurs, hein, la santé, l'école, etc. Et donc, voilà, c'est une façon aussi pour le président de cultiver ses propres travers.
Alors, le mot ensauvagement se souvient d'ailleurs de la passe d'armes, hein, entre Darmanin d'un côté, Dupond-Moretti de l'autre. Alors, si vous me dites que le mot décivilisation n'est pas le bon, lequel, finalement, pour essayer de comprendre notre société aujourd'hui, Christophe?
On a un affaissement du civisme, qui est dû à plusieurs choses. D'abord, un aspect civilisationnel, en effet, le civisme laïque, républicain, il venait aussi de la morale et de l'éthique judéo-chrétienne. Le bien, le mal, tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'était devenu aussi la loi. À partir du moment où ce corps de valeurs judéo-chrétien s'est effrité, s'est affaissé dans notre civilisation occidentale, évidemment, la version laïque républicaine en est fragilisée. Mais c'est aussi, cette perte du civisme, le fruit de la crise de la démocratie représentative. La loi est faite par des gens qu'une partie de la population ne respecte plus. Les gens ne votent plus. Les gens considèrent que quand on vote, même quand on fait un référendum pour construire un aéroport, on ne le fait pas parce qu'il y a 50 barbus dans des cabanes qui occupent la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça marche plus. Donc il faut qu'on change. Donc il y a toute une série de phénomènes qui font qu'on n'obéit plus à l'élu, on n'obéit plus à monsieur le maire, on n'obéit plus aux policiers, on n'obéit plus au docteur à l'hôpital, etc. C'est ça qu'il faut reconstruire. L'autorité. David nous parlait des climato-sceptiques qui critiquent la météo. Mais c'est ça aussi la contestation de l'autorité. L'expertise scientifique n'est plus respectée.
On a vécu la même chose avec le Covid.
Oui, bien sûr.
Et avec la montée des antivax, tous ces mouvements, y compris touchant une partie du personnel soignant lui-même, refusant le vaccin, c'est exactement le même phénomène. Et c'est vrai que quand on parle de crise de l'autorité, en général, général, les gens répondent par une demande d'autorité au sommet de l'État, donc un chef, un régime plus fort, ainsi de suite. Alors qu'en fait, l'autorité en question, elle est niée partout. On est dans une phase hyper individualiste. Au fond, on est à l'aboutissement d'un des cycles qui a conduit les individus à conquérir de plus en plus de liberté, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, il y a ce déficit, mais qui est valable partout, dans tous les domaines, pour tous ceux qui ont une parcelle, non pas de pouvoir même, mais de savoir. Et donc, ce sont les sachants même qui sont contestés dans ce qu'ils apportaient auparavant. Moi, je fais partie d'une génération qui, quand le maître arrivait en classe, on se levait. Quand le professeur arrivait en études supérieures à l'université, les élèves se levaient aussi. Aujourd'hui, ça paraît totalement fantaisiste, impensable. Mais ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que les individus, les citoyens, se déterminent en dehors de la politique. Hors de la politique. Et ça ouvre aussi un champ possible qui est que les sociétés peuvent reculer. Elles peuvent faire enclencher la marche arrière. Et à certains égards, il y a un certain nombre de forces politiques qui veulent nous entraîner en marche arrière.
Je regardais le débat, pas mal de débats à la télévision après Roubaix, la mort des trois policiers. Il y avait d'un côté ceux qui disaient « c'est la preuve que notre société est complètement malade » et d'autres qui disaient « c'est un accident ». Donc on voyait finalement comment les uns et les autres se positionnaient par rapport à ce drame, Christophe.
Un accident n'est pas un hasard. Un accident peut être aussi le symptôme d'une dérive de la société. C'est vrai pour l'accident de Pierre Palmade, qui fait surgir plein de questions, et c'est vrai aussi pour cet accident tragique de Roubaix. Ce type au volant qui était sous emprise de la drogue, alcoolisé, qui roule du mauvais côté, bien sûr, il n'a pas décidé d'aller collisionner la voiture des policiers. Mais quand même, il se trouve qu'une série de comportements ont amené cet accident. C'est donc pas un hasard. Donc la société doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la consommation de drogue? Répression, prévention, mélange des deux, légalisation, etc. Et c'est là où les faits divers, comme on les appelle, peuvent nous aider à réformer la société et à la faire aller dans le bon sens. L'individu contre le collectif, ce que disait Jean-Marie, oui. C'est exactement la thèse d'Elias. Depuis la Renaissance, dit-il, l'individu a conquis le plus de droits possibles, mais tout de même, on respecte le contrat social. Je n'ai pas le droit de faire tout et n'importe quoi pour mon plaisir personnel. Mes droits personnels, c'est un contrat avec le respect du contrat social. C'est ça qui est en crise aujourd'hui. C'est que le contrat social a été trop contesté, trop bousculé par l'individualisme qui devient un égoïsme. Donc il faut rétablir ça. Mais l'autorité de grand-papa est morte, si j'ose dire. Oui. On ne reviendra pas à un modèle années 50. Et en effet, se lever dans une classe, ce qui est fortement symbolique et très positif, si on veut revenir à ce genre de comportement, il faudra le motiver. Je ne me lève pas parce qu'on m'ordonne de me lever, sinon c'est une punition, mais parce que j'ai un véritable respect pour le sachant qui est entré. Et ça, ça va prendre un certain temps à se rétablir.
Jean-Marie, là encore, rien à ajouter à ce qu'a dit Luc.
Non, c'est tout parfait. C'est tout à fait juste. Simplement, il faut bien avoir conscience que la société elle-même se façonne sous nos yeux. Ça n'est pas fondamentalement nouveau non plus. Quand on regarde notre histoire récente, le tournant du 19e au 20e siècle ressemble beaucoup à ce que nous vivons. C'est-à-dire le passage d'un âge agricole, rural, à un âge industriel, à une société industrielle. Dans ce passage-là, qui était obscur pour les contemporains qui le vivaient, tout a été remis en question. Le mode d'organisation de la société, les syndicats, les partis, l'idéologie, on a vu les valeurs bousculées passant d'un bord à l'autre. La nation qui était née à gauche est passée à droite, par exemple. Les syndicats se sont organisés en fonction de cette ère industrielle et la réaction de la société a été parfois violente. En France, ça a été le boulangisme. Donc, on est exactement dans une période de cette nature révolutionnaire, au sens propre du terme, c'est-à-dire la révolution numérique implique un changement de complet, et donc on va vivre pendant un certain temps avec cette incertitude, comment s'organiser, comment être représenté, est-ce que notre âge qui vient sera aussi démocratique que le précédent? Nous ne le savons pas, mais nous devrons nous battre pour que cet âge soit démocratique.
Mais écoutez, cet esprit libre est très intéressant. Je vais vous ramener malheureusement à des choses plus politiciennes avec le 8 juin, c'est quand même important.
Oui, c'est très important le 8 juin. Et
le 8 juin avec donc cette décision du groupe Liotte, Jean-Marie.
Et bien on a l'impression que le gouvernement l'a un petit peu négligé au départ. Or, ce 8 juin, cette fameuse discussion sur ce projet de loi, ou non, cette proposition de loi, peut très bien tourner à la catastrophe.
Alors, proposition, on rappelle.
Dans une crise politique majeure. C'est un petit groupe, le groupe Liotte. Oui. Qui la dépose avec le soutien des oppositions. Et donc, si cette loi, cette proposition de loi était votée, alors on dira, naturellement, on n'est qu'au début d'un cycle parlementaire, il faut ensuite que ça vienne au Sénat. Le Sénat n'en voudra pas. Tout ça, d'accord. Mais s'il y a un vote contre, donc si un vote contre la réforme des retraites.
Oui, parce que c'est un texte contre la réforme.
Article 1 interdit d'aller au-delà de 62 ans.
Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut être précis.
Ce sera un tremblement de terre politique. Et si le gouvernement n'en tient pas compte, si le président n'en tient pas compte, il y aura aussitôt derrière une motion de censure déposée qui aura toute chance d'être votée. Et donc là, on entre dans un processus de crise politique aiguë. C'est ça la menace qui pèse sur cette échéance du 8 juin.
Christophe, le 8 juin est sous-estimé par le gouvernement. J'ai l'impression quand même que ça bouge pas mal.
Ils l'ont sous-estimé, maintenant c'est trop tard. La bombe est amorcée et donc le gouvernement, si on va au vote, il y aura une majorité pour voter ce texte. Et donc, le seul vote qu'il y aura eu sur la réforme des retraites, ce sera eu un vote pour l'abroger. Quel symbole. Et si il y a une ruse parlementaire, article 40, ça crée des charges, c'est anticonstitutionnel.
On en parlait avec
Guillaume
Tabar.
Ça sera comme une sorte de 49-3 bis. Ouais. Et il y aura un émoi dans l'opinion et ça relancera les syndicats qui auront manifesté deux jours avant. Donc le gouvernement a perdu des deux côtés. La seule issue peut-être pour le gouvernement, c'est de débattre sur le fond. Vraiment. Toute la journée du 8 juin, de prendre cet article 1. 62 ans, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Déposer des amendements. Et on atteint minuit. Et on n'a pas voté, mais on a quand même débattu. Donc le gouvernement ne peut pas être accusé d'avoir cassé la démocratie parlementaire, mais le texte n'est pas adopté. Remarquons que c'est exactement ce que LFI a fait au vrai texte, à la première réforme, puisque l'article 7 n'a pas été voté par obstruction des LFI. C'est la seule issue de secours que je vois pour le gouvernement pour ne pas apparaître comme un briseur de débats parlementaires. Mais quelle maladresse de ne pas l'avoir arrêté tout de suite, cette proposition de loi.
L'obstruction des LFI avait un seul objectif, permettre au mouvement social de continuer et de continuer à s'amplifier dans une perspective pour Jean-Luc Mélenchon et pour Jean-Luc Mélenchon peut-être tout seul, la révolution, une perspective révolutionnaire.
On n'en a pas fini donc avec la réforme des retraites encore, Christophe.
Non, on n'en a pas fini parce que même si cet épisode était traversé, il y a les décrets d'application qui commencent à arriver. Donc on va voir dans la vraie vie des gens à quoi rime la réforme Borne et il y aura des tensions jusqu'à l'automne. Et puis dans un an, un peu moins d'un an, 14 avril, anniversaire de la promulgation, ça réouvre le droit de faire un référendum d'initiative populaire pour revenir sur cette loi, puisqu'on n'a pas le droit de le faire pendant la première année d'activation de la loi. Vous voyez, on n'en a pas fini. Et en 2027, la clause de revoyure, aucun présidentiable sérieux ne pourra venir devant les Français sans une réforme des retraites populaire.
Esprit libre avec Christophe Barbier et Jean-Marie Colombani. Merci messieurs, je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Il est 8h57 dans un instant. La météo est l'essentiel de l'actualité.